Ensuite, nous passons au plan. Une fois qu'on a fait tout ça, on va commencer là la rédaction. Donc, pour moi, à partir du plan, je rédige. Bon, alors, le plan, il doit suivre votre cheminement. Et là, le problème, c'est qu'on a des contraintes dans nos plans de thèse. Vous ne faites pas un plan de thèse comme ça aléatoirement. Hein. Vous faites une introduction, un état de l'art, ou appelé aussi chapitre bibliographique ou premier chapitre ou ce que vous voulez. Il n'empêche que c'est juste un état de l'art. Hein. Un espèce de matériel et méthode que vous mettez soit là, soit à la fin. Hein. C'est le truc un peu bizarroïde en fonction des trucs. Mais en tout cas, on balance un matériel et méthode. Ensuite, on a un truc résultat et discussion ou résultat quelque part et une discussion finale. Alors, pour moi, une discussion de 3 pages à la fin en conclusion n'est pas une discussion. Hein. Une discussion, c'est soit un chapitre complet, soit de toute façon mes résultats et discussion en même temps. Parce que très souvent, alors, pour la partie science dure, c'est ce qu'on fait. Et c'est là où vous avez plusieurs chapitres et c'est là qu'on va détailler le plan réel. Ensuite, une conclusion, des références et des annexes. Donc voilà, ça c'est un plan typique. Donc c'est là-dedans qu'il va falloir faire un plan, c'est-à-dire faire une suite logique des idées. Bien sûr, ici, on ne fait pas 50 chapitres, on en fait 1, 2 ou 3. Et c'est comment à l'intérieur on structure. Alors, très souvent, nous ce qu'on fait en sciences dures, c'est des plans linéaires, donc des plans par enchaînement. Alors ces plans par enchaînement, c'est très très bien, c'est très facile. Je pars de l'idée numéro 1. Je pose la question numéro 1, elle arrive à un résultat. Numéro 1, je pose la question numéro 2, qui découle forcément de la question numéro 1. Et je continue. Donc c'est pour ça qu'on fait des choses linéaires. Et c'est pour ça que dans tous les articles, ou dans une majorité d'articles, vous avez un truc résultat-discussion. Parce qu'on va discuter de tous les résultats en même temps, qui vont nous permettre de justifier du reste. Et c'est vraiment si on a des choses très différentes où on va faire une discussion générale à la fin. Si vous lisez les articles, hein, résultat, discussion. Hein, c'est de plus en plus rare que vous avez résultat d'un côté et discussion à la fin. Après, vous avez les plans binaires, dichotomie ou opposition. Ça, c'est plus section littéraire. C'est-à-dire idée A, on oppose l'idée B. Et là-dedans, on critique en même temps. Ou alors, c'est le tertiaire ou dialectique, c'est opposition et synthèse. Donc ça, c'est plus des versions littéraires. Eh ben, on va passer en revue un peu tout ce qu'il faut hein, dans ces différentes choses. Introduction, donc ça dépend de la taille des contraintes et des longueurs. Je ne vais pas vous dire, il faut une introduction générale de 3 pages. Ça va dépendre de la taille de votre thèse, ça va dépendre en bio, vous ne faites pas pareil qu'en physique théorique, qui ne font pas pareil qu'en lettres. Donc, voilà, contrainte. En revanche, comment on fait une intro? Ça, c'est valable pour tout le monde. Entrée en matière générale, contexte sociétal. Ensuite, on fait une entrée en matière disciplinaire, c'est-à-dire que j'ai ma question fondamentale. Hein, on va dire, alors ma question fondamentale, c'est le traitement de l'eau. Pourquoi c'est important? Alors je fais mon traitement de l'eau, j'explique que c'est important pour la société, que voilà, et après je vais le faire le contexte disciplinaire. Alors, si ma discipline, c'est l'écologie, je vais parler du traitement de l'eau en version écologiste, enfin, avec une vision écologiste scientifique. Si mon métier, c'est le traitement membranaire, donc physico-chimiste des membranes, eh ben, je vais traiter le traitement de l'eau avec des équations de flux. Okay, donc ça, c'est entrée en matière disciplinaire. Ensuite, on pose la problématique. Quel est le problème dans ce domaine? Je pose mes questions de recherche. J'ai une problématique, ça me pose des questions et je finis en disant je vais traiter ces questions suivant ce plan. Alors si vous voulez savoir comment on fait une super intro, vous allez sur le site de Nature et vous y explique comment vous faites une intro en 5 lignes, en vous disant voilà, 2 lignes de contexte général, 3 lignes de ça. Il est super bien fait. Puis en plus, vous pouvez, en augmentant le nombre de lignes, le plan est extrêmement logique et ça vous permet de faire des super intros. Voilà, et bon, j'ai repris ça de chez eux. Ouais. Comment tu abordes le problème? Ton plan, si tu reprends la petite logique que j'avais avant, mon plan n'est ni plus ni moins qu'une transcription écrite de l'organisation de mes idées. Ok ? Donc, ce plan, je me pose une question. À la fin de mon intro, je dis comment je traite la question et quelle est la logique de ce que je vais développer. Parce que dans une problématique, c'est général. Je reste dans le disciplinaire. Je pose la problématique dans ma discipline. Dans cette problématique, je me pose quoi ? Une, deux, trois questions pendant ma thèse ? Je pose mes questions là. Et là, je dis voilà comment moi, je vais les traiter. Alors, tu n'es pas obligé de dire « Dans un premier chapitre, nous allons voir que dans un second chapitre... » Non, non. Tu peux mettre le plan de façon beaucoup plus subtile. Alors, souvent en science, on va te demander de mettre « Dans un premier chapitre, on a mis ça. Dans un deuxième chapitre, on a mis ça. » Mais tu décris pas le chapitre. Tu dis « Dans un premier chapitre, on va aborder le sujet comme ça. Dans ce deuxième chapitre, nous aborderons le sujet de cette façon-là. » Voilà. Tu peux aussi le faire plus subtilement. Mais c'est pas redondant, hein. Ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai fait. Jusqu'ici, j'ai juste cadré les choses. À partir de là, je commence à évoquer mon travail. Ok ? Ensuite, votre partie biblio. Alors, la partie biblio, on l'a fait à partir de votre question de recherche. Alors, je vais vous prendre un exemple débile, hein. Vous placez placement complet du contexte, ce qui a été fait. Les différentes questions en suspens, alors bien sûr, hein, les questions en suspens que vous allez plus ou moins traiter après, et la stratégie et en quoi elle est innovante. C'est-à-dire comment vous avez traité ces questions et en quoi c'est un peu nouveau, ou pourquoi ça n'a jamais été fait. Encore une fois, dans le truc de thèse, il y a marqué original quelque part. Production scientifique originale. Si ce n'est pas original, ce n'est pas une thèse. Donc, il va falloir prouver que c'est original. Donc, en quoi votre stratégie va être innovante. Ça, c'est dans le placement du contexte. Définir les notions importantes, seulement les compliquées. En gros, il va falloir sélectionner l'information. Si vous avez bien cadré votre sujet, que vous avez bien cadré votre démarche, de là, vous allez pouvoir sortir les points importants qu'il va falloir définir. Ah oui, parce que je vous demande un état de l'art sur le traitement des eaux, vous pouvez m'en écrire à peu près une encyclopédie comme ça. Pour faire un petit résumé de 40 pages, il va falloir cibler. Mais il va falloir cibler les bonnes informations. Et en plus, comme on est souvent très bête, la première des choses qu'on fait quand on fait cette partie-là, ben c'est le premier chapitre qu'on écrit. On se dit, je vais commencer ma partie biblio. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend les revues de référence, et on essaie de faire un résumé des revues de référence. Et à la fin, vous apercevez que vous tapez complètement à côté de ce que vous faites après. Voire, des fois, il y a des gros non-sens sur des thèses, parce que c'est des espèces de résumés, alors des fois même des traductions de revues. Moi, j'ai quand même vu des encadrants arriver en disant « Oh, partie biblio, traduis cette revue. » Vous tapez à côté, et en fait, ça montre juste un truc, c'est que vous n'avez rien compris. Donc, c'est à partir de là que vous allez définir vos notions importantes en les prenant dans la littérature. Alors ça, vous êtes obligé de le faire si vous faites des thèses, par exemple, biophysique. Des thèses bien pluridisciplinaires, ça vous êtes obligé de bien cadrer les choses. Voilà, et cette partie-là finit par une conclusion. Cette conclusion, c'est une synthèse. Synthèse de quoi ? Des questions en suspens et de vos stratégies, hein, qui reprend beaucoup ça. Et qui ouvre sur votre travail. Un état de l'art qui n'ouvre pas sur le chapitre d'après, résultat, discussion, ça ne sert à rien. Hein ? Je pars de ma question. Je donne tous les éléments pour comprendre la question. Je définis ma stratégie. Je conclue sur la synthèse, les points importants, la stratégie, les questions. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, pour répondre à toutes ces questions-là ? Mais je vous ai donné le background. En gros, ça, c'est le background du lecteur. Si vous utilisez une équation qui n'est pas la vôtre, qui est super compliquée et que vous n'avez pas définie ici, c'est pas dans la partie résultat qu'il va falloir définir les équations ou qu'il va falloir définir des notions fondamentales. Les notions fondamentales se définissent ici. Prendre les revues que vous avez faites, les espèces de trucs de bouquins que vous avez fait pour vos patrons, vos articles, les traduire et les mettre dans votre thèse. Surtout, le faites pas. Encore une fois, une revue a un objectif, votre thèse en a un autre. Après, vous pouvez aussi prendre une ancienne thèse et faire du copier-coller, il n'y a pas de souci. Faites comme vous voulez. Moi, j'essaie juste de vous expliquer que ce travail-là est super important. Et il n'est pas forcément long. Hein. Bon, matériel et méthode. Alors là, bien sûr, ça va dépendre. Ah, ça peut être en annexe. Alors ça dépend, il y en a qui les mettent en annexe. Pour les chimistes organiciens, le matériel et méthode, c'est carrément une partie expérimentale à la fin. Enfin, bon, ça va dépendre, on va dire, de votre discipline. Toutefois, il y a des choses intéressantes. Enfin, il y a des choses pour. Voilà, il y a des choses clés là-dedans. C'est cette partie, c'est la partie la plus importante de votre thèse. Parce qu'il faut être clair, votre thèse, elle va servir à qui ? Qui va lire votre thèse ? Votre thèse va être lue par les étudiants qui vont revenir dans le labo, les stagiaires, les thésards, les limites, les post-docs. C'est à peu près tout. Je suis désolé, vous allez faire un travail de 250 pages qui va pourrir au fond d'une BU. D'accord ? Donc ne faites pas une thèse en vous disant que ça va être lu par les gens, c'est faux. Faites une thèse, la thèse, c'est un exercice mental. Donc vous la faites pour vous. Okay, c'est vraiment un exercice mental. En revanche, qu'est-ce qui va servir dans votre thèse? C'est ça. Alors vous êtes tous partis, vous avez tous pris des thèses quand vous êtes arrivés en doctorat. Et vous avez lu, la première chose, c'est les remerciements. Voilà, pour savoir si le thésard était sympa ou pas. Et la deuxième chose, vous êtes jetés sur le matériel et méthodes pour savoir comment ils avaient fait les manips. Et oh horreur, si vous n'arrivez pas à refaire la manip, ou que c'est mal écrit, tout le monde râle. On fait pareil avec les articles. On prend les articles, on essaie de refaire la manip. Bon, en gros, ça, c'est la partie qui va servir. Tout le matériel et méthodes, c'est ce qui va servir. Ça va servir au labo, donc c'est important de lister le matériel utilisé, les conditions, les produits, les références, tout. Tout ça, c'est votre héritage d'expérimentateur au laboratoire après. Alors pareil, si vous faites de la simulation, c'est les codes. Ouais, ça, c'est un point qui est assez crucial. C'est, en gros, ça, c'est votre héritage au labo. Alors souvent on le fait un peu à la va-vite, un peu à la légère, mais c'est vraiment votre héritage. Résultat discussion. Alors vous le séparez ou pas, ça pareil, ça dépend des disciplines, ça dépend des tout. Alors toutefois, vous commencez par introduire votre partie résultat discussion à chaque fois par la question de recherche, c'est-à-dire dans ce chapitre, quelle question de recherche? C'est mon introduction. Ça, vous introduisez tous vos chapitres. Ben, en introduisant le chapitre, c'est quelle est la question? Quelle est la question de recherche? Comment je vais la traiter? Ensuite, n'oubliez pas, c'est dans ces parties-là où on fait souvent l'erreur, de faire ressortir le cheminement de pensée et non pas que les résultats. Pour faire ressortir le cheminement de pensée, il y a un truc assez simple. Vous faites une expérience, expliquez pourquoi vous avez fait l'expérience. Dans quel but? Vous avez fait cette expérience, pourquoi? Pour démontrer quoi? Et c'est tout simple, mais ça marche très très bien. Et toujours faire des petits rappels, parce que bon, un chapitre qui fait 40 pages, toujours faire des rappels à la fin d'une démonstration, à la fin d'une expérience, pour que le lecteur ne perde pas le fil de qu'est-ce que vous avez voulu dire. Alors après, bon, il y a des petits tips sympas, illustration claire, donc vous faites attention à la valeur sur les graphes, c'est-à-dire que quand vous imprimez un graphe, l'écriture 12 sur origine, ça donne des trucs très 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 petits. Donc vraiment, enfin, mettre les abscisses, les ordonnées, les chiffres sur les graphes de façon claire, de façon précise. Bien mettre les unités sur les axes, hein, parce qu'on voit que des fois il n'y a pas d'unité. Alors les plus grands spécialistes de ça, c'est les physiciens. Ils vous mettent un facteur, et à partir du moment où vous mettez un facteur, ils mettent même plus l'unité. Voilà, donc donc vraiment bien faire les choses. Faire des graphes clairs et surtout présenter les résultats de façon à ce que vous expliquez soit évident. Je prends un exemple simple. Vous avez quelque chose qui est linéaire en loi logarithmique. Eh ben, vous utilisez une échelle log. Vous êtes d'accord? Comme ça, vous voyez vraiment votre croissance ou décroissance linéaire. Pareil pour les exponentielles. C'est stupide, mais c'est ce qu'on fait. Eh ben, imaginez-vous que vous avez des choses plus compliquées, ben, vous faites pareil, c'est-à-dire vous mettez vraiment le graphe de façon à ce que ce soit parlant. Voilà, dernière fois, j'ai mon étudiant, il m'a mis un truc, un run d'électrophysiologie, donc c'est du bruit avec des espèces de blocages. Il m'a mis 10 minutes sur un truc à peu près fin comme ça. Et moi, ce que je voyais, c'était du bruit. Lui voyait des blocages de courant. Alors, je lui ai montré l'article que j'avais écrit juste avant, là, avec les données. Je lui ai dit, voilà, moi, je l'ai fait sur une ligne complète. C'est vrai que c'est plus flagrant. Donc voilà, faut vraiment présenter les résultats, les échelles et tout, de façon à ce que ce soit flagrant.